Il est 4 heures. Phare FM. C'est Phare FM qui vous accompagne si vous venez de me rejoindre. Bienvenue.
Phare FM. La Bible dit:
un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
If I ain't got you, il est 4 heures passées, on est ensemble encore jusqu'à 5 heures et c'est la nuit autrement qui vous accompagne avec Mireille. Je suis ravie d'être avec vous, je vous souhaite un bon réveil si vous venez de vous réveiller, une belle journée aussi, un bon lundi, une excellente semaine. On est ensemble pour écouter encore de la musique et puis votre prochain rendez-vous, ne le manquez pas. C'est avec Christian Gagneux, Confesse le Seigneur Jésus sera le thème dans Pain de vie. Et avant cela, de la musique, Matka Adama, c'est tout de suite. Très belle journée à l'écoute de Phare FM.
Minuit 5 heures, la nuit autrement
avec Mireille.
Mustapha et les autres, au-delà des rêves qui étaient vôtres, c'est contraint de fuir vos idéaux pour reconstruire un avenir nouveau. Écrire l'histoire à l'encre de vos mots. Adama, Mustapha et les autres, votre histoire nous enseigne tant de choses. Votre courage à traverser les eaux et votre rage vous a mené plus haut vers d'autres plages, vers votre Eldorado. Tout quitter, tout laisser, s'envoler, ne pas se retourner. Tout quitter et affronter les dangers, ne jamais renoncer. Restez digne, restez fort, malgré tout. Adama, Mustapha et les autres, vos sourires nous procurent tant d'espoir. Votre volonté balaye tous nos déboires. Votre grâce, l'ardeur de vos efforts, nous confondent, tourmentent notre confort. Tout quitter, tout laisser, s'envoler, ne pas se retourner. Tout quitter et affronter les dangers, ne jamais renoncer.
Message pain de vie avec le pasteur Christian Gagneux.
Le titre de mon message, c'est Confesse le Seigneur Jésus. Romains 10,
Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. En lisant ce texte, eh bien, le chemin du salut implique deux choses. D'abord, de confesser de notre bouche et ensuite de croire dans notre cœur. Si nous confessons de notre bouche sans croire, alors nous sommes des menteurs. La confession ne se limite pas simplement à la confession de nos péchés. Qu'est-ce que veut dire confesser ? Confesser, eh bien, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Confesser, c'est proclamer que Jésus est le Seigneur. Confesser, c'est déclarer avec force. Et c'est aussi découvrir que Jésus est le Sauveur. Est-ce que vous laissez surprendre par Jésus ? Jésus veut nous surprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu de belles choses avec le Seigneur parmi nous. Moi-même, j'ai vécu de belles choses. Et le Seigneur veut nous surprendre. De plus en plus, plus nous lui ferons confiance, plus son nom sera dans notre bouche et dans notre cœur, plus il va nous surprendre. La confession ne se limite pas seulement à la confession du péché, mais c'est le fait que Jésus vit vraiment en nous qui est important. Et il faut que le monde le sache. Il s'agit ici de confesser ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Confesser la guérison que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ. Je confesse ma guérison. Il a guéri mon cœur, mais il a aussi guéri mon corps. Jésus m'a guéri et je le confesse. Je le confesse de tout mon cœur. Il faut que le monde le sache. Il a pris aussi ma pauvreté spirituelle. Il a fait de moi un homme riche. Riche dans le sens où je sais en qui je crois. Et je sais que je ne serai jamais confus comme nous l'avons lu ensemble tout à l'heure. Il m'a guéri de mes malédictions pour transformer ces malédictions en bénédictions. Proclamer Jésus dans notre bouche, c'est proclamer la bénédiction sur nous-mêmes, mais aussi sur toutes les personnes qui nous côtoient. Beaucoup de chrétiens disent croire ces choses, mais ne les confessent pas de leur bouche. Permettez-moi, même si c'est dur à dire, que l'Esprit Saint n'habite pas alors dans ces personnes. Ça peut paraître difficile, mais c'est Paul qui l'affirme dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, il nous dit « Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en moi, alors je vais confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas n'importe qui, il est Seigneur. Confesser Jésus dans notre bouche va créer une dynamique qui va permettre au Saint-Esprit de rentrer en action et de travailler dans nos vies de manière concrète, tous les jours, quotidiennement, à cause de la présence de l'Esprit qui est en nous. Si je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche, cela va créer une dynamique. Nous prenons souvent l'exemple de cette femme qui souffrait d'une perte de sang. La Bible nous dit que cette femme était exténuée, fatiguée, premièrement par sa maladie, qui probablement la rendait anémique et la privait de ses forces physiques, mais aussi fatiguée parce qu'elle avait fait maintes et maintes tentatives chez les médecins. La Bible nous dit qu'elle avait donné tout son argent pour essayer de guérir auprès de différents médecins et personne ne pouvait l'aider. Marc nous dit qu'elle était épuisée et qu'elle n'avait plus de ressources. Plus de ressources physiques, elle était ruinée en essayant de se soigner. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 27, il est écrit ici « Ayant entendu parler de Jésus ». Le fait d'avoir entendu parler de Jésus a provoqué chez elle la foi. Ça a provoqué la foi et au verset 28, il est écrit « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Elle a confessé de sa bouche et la femme eut foi, on voit le principe. Elle a entendu parler de Jésus, elle a eu foi, elle a confessé, elle a agi. Elle s'est levée, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle n'est pas restée là simplement à attendre, elle a agi. Ses paroles ont créé une dynamique qui l'a poussée à agir. Si nous confessons Jésus dans notre bouche, cela va créer une dynamique dans notre vie. Mais la foi plus la confession du nom de Jésus-Christ dans notre vie va créer une dynamique. Je dis merci bien sûr pour la science, pour la médecine, pour les progrès que fait celle-ci. Mais nous sommes souvent confrontés aux limites de la science, aux limites de la médecine. Et nous avons besoin alors du miraculeux de Dieu. Nous avons besoin de la foi, et la foi nous permet alors de voir au-delà de ces limites humaines. Notre chair nous empêche de croire, et elle nous le rappelle par des douleurs, elle nous le rappelle par toutes sortes de choses. La chair va venir nous faire douter dans les moments difficiles de notre vie. Et le miracle, c'est justement de vivre l'incroyable. Sinon, ça ne s'appelle pas un miracle, vous êtes d'accord avec moi? Le miracle, c'est de trouver des solutions là où il n'y a pas de solution. C'est de trouver la guérison là où la science n'a plus de solution pour nous. Là où les médicaments n'ont plus de limites. Ça, c'est le miracle. La foi, c'est de refuser les limites que la logique humaine a fixées. Et nous regardons avec nos yeux humains très souvent. Et c'est pour ça que nous avons besoin de croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Nous avons besoin de proclamer le nom de Jésus. Ma chair dit « c'est impossible » et le Saint-Esprit qui habite en moi me dit « tout est possible à celui qui croit ». Matthieu 9, 23. Et parfois nous sommes dans un réel conflit dans notre vie quotidienne entre ce que la chair nous dit et ce que la parole de Dieu nous dit. Un conflit. Je me souviens en 2000, lorsque nous revenions d'Israël, que la seconde intifada avait commencé, je recevais un appel téléphonique d'un monsieur qui me demandait si on pouvait les aider en envoyant des lits médicalisés et des fauteuils roulants, parce qu'on avait l'habitude de laisser tout le temps un fauteuil roulant lors de notre voyage. On l'offrait toujours à la même association. Et un des responsables de cette association m'appelait en me demandant si je ne pouvais pas les aider. Et je disais à ce monsieur, mais moi je ne travaille pas dans le médical, je suis pasteur. Il ne savait pas ce que c'était un pasteur. Alors il dit « Ah bon, excusez-moi », mais en même temps que je lui disais « Je ne peux pas vous aider », il y avait un conflit dans mon cœur. Parce qu'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait « Mais si, tu peux les aider ». Mais la logique me disait le contraire. Et en discutant avec ce monsieur, je lui dis « Écoutez, laissez-moi quand même votre numéro de téléphone. Si jamais je peux vous aider plus tôt, eh bien je vous rappellerai ». 3 semaines après, je les ai rappelés, j'ai simplement fait une annonce ici, du haut de l'estrade. Et beaucoup de personnes se sont mobilisées en quelques semaines. On avait de quoi remplir un conteneur avec des fauteuils roulants et des lits. Et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas du tout logique dans ma chair, dans mon intelligence. Mais dans mon cœur, il y avait une voix qui me disait « Mais si, tu peux le faire ». Un conflit permanent entre la chair et l'esprit. Mais tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est le message. La bonne nouvelle de l'évangile, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Jésus. Jésus n'a pas de limite. La Bible nous dit qu'en acceptant Christ dans ma vie, je suis devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. J'ai reçu une nouvelle identité. Je suis devenu fils de Dieu, héritier, co-héritier. On a reçu une nouvelle identité et nous sommes des fils et des filles. De Satan, on n'est plus les esclaves de notre chair. Si nous connaissons Christ, on a été libérés de l'esclavage, libérés des chaînes que Satan met autour des hommes et des femmes. Je suis devenu un homme libre en Jésus-Christ. Je ne suis plus un esclave, je ne suis même plus appelé serviteur par le Seigneur. Je suis appelé fils, co-héritier de la grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire. La difficulté, en fait, c'est de vraiment saisir et réaliser cette nouvelle identité. De nouveau, confronté entre la difficulté de ce que la chair nous dit et de ce que notre esprit nous dit. Je voudrais vous dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Est-ce que nous arrivons à saisir cela ? Je sais que c'est difficile à saisir parce que charnellement on est là, on est confronté aux mêmes problèmes que tous les autres. Mais réfléchissons à nos priorités. Est-ce que ma priorité est de vivre bien sur cette terre et de profiter un maximum du bien-être et des bienfaits que la société peut m'apporter sur cette terre? Ou est-ce que je cherche à servir mon Sauveur et mon Seigneur? Nous sommes confrontés à ce que nous voyons autour de nous, à ce que nous entendons, et notre chair nous met la pression. Oui, c'est vrai que tu as pris de belles résolutions dans tel ou tel domaine de ta vie, mais est-ce que c'est bien grave si de temps en temps tu te laisses aller petit péché par-ci, par-là? C'est grave parce que l'onction du Seigneur, la présence du Saint-Esprit se retire de nous. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies, c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce que l'onction de Dieu? C'est quoi l'onction du Saint-Esprit? L'onction, c'est de voir Dieu agir dans ma propre vie. C'est de voir Dieu se servir de moi, Jésus se servir de moi, le Saint-Esprit se servir de moi dans tout ce que je fais tous les jours de ma vie. Ça, c'est l'onction. De voir que Jésus me dirige, me conduit, de voir que lorsque je suis en face d'une personne qui est en difficulté, et bien simplement par la parole de Dieu, cette personne retrouve de l'espérance ou trouve le salut, ça c'est l'onction de Dieu. De prier avec la personne et de voir la personne guérie, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies qui nous permet de réaliser cela. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ce que nous possédons matériellement ou ce que nous recevons qui fait de nous des princes ou des princesses du Seigneur. Mais c'est ce que nous allons donner qui va déterminer notre titre. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, il y a l'histoire de deux hommes, Naaman et Élisée. Naaman est le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait certainement d'une grande considération dans son pays. C'était quelqu'un d'important, on peut imaginer, le général en chef de l'armée. C'était l'un des personnages les plus importants de la Syrie. On pourrait dire aux yeux du monde que c'était un prince, c'était quelqu'un de très important. Seulement Naaman avait un problème. Naaman était malade, il était lépreux. Naaman, par le biais d'une jeune fille, entend parler d'Élisée. Et il va venir vers Élisée. Et Élisée va lui proposer quelque chose. Élisée va lui dire de se tremper dans le Jourdain. Dans un premier temps, Naaman ne va pas accepter pour diverses raisons. Il ne va pas déjà comprendre pourquoi il doit se tremper dans le Jourdain alors que chez lui, il y a des fleuves qui sont plus propres que le Jourdain. Et puis, il va certainement trouver ridicule de se tremper cette fois dans l'eau devant toute son armée qui est avec lui. Il va refuser dans un premier temps. Élisée, lui, est le serviteur de l'Éternel. Il n'est pas riche. Et il refuse même l'argent que Naaman lui propose pour sa guérison. Élisée va écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Et il va dire au chef syrien ce qu'il a à faire. Ça n'a pas de sens ce que Élisée lui demande. Et Naaman va obéir et il va être guéri. Il va se tremper dans le Jourdain et il va recevoir la guérison. Élisée avait compris que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, et que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, nous avons tout. Élisée n'avait besoin de rien, il n'avait pas besoin de l'argent du Syrien. Pourquoi? Élisée se reposait pleinement dans le Seigneur. Et il savait pleinement que le Seigneur s'occupait de lui en toutes circonstances. Il n'avait rien besoin de plus que ce que le Seigneur lui donnait. Il vivait en communion parfaite avec le Seigneur. Quand on a l'Esprit et sa puissance, on n'a besoin d'absolument rien. Parce que Dieu nous donne tout, absolument tout. Et ce qui était valable pour Élisée, mes amis, c'est valable pour nous aujourd'hui de la même manière. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui va se passer demain. Parce que Dieu a fait des promesses à ses enfants. Et Dieu ne ment pas. Et s'il nous a promis de nous occuper de nous comme il s'occupe des petits oiseaux dans le ciel, alors il va le faire. Il prendra soin personnellement de ses enfants. De savoir que Dieu prend personnellement soin de moi, ça me rend heureux, ça me remplit de bonheur et de joie. Mais je sais que dans toutes les difficultés que je rencontre, il est là et lui a une solution. Là où il n'y a pas de solution, il va en trouver une. On ne peut pas acheter la paix, ça n'existe pas. Vous achetez le meilleur plat du monde. Dans le plus grand restaurant, le plus grand cuisinier, vous asseyez et puis vous n'avez pas d'appétit. Avec quoi vous allez acheter l'appétit? ça ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas acheter le sommeil, mais le vrai sommeil, celui dont parle David dans les psaumes, « Je me couche et je m'endors », celui-là, on ne peut pas l'acheter. Les choses qui rendent un homme réellement heureux, c'est impossible à acheter. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Je prêchais un jour à Beau Soleil, et pendant que je prêchais, quelqu'un a déposé un papier sur le pupitre. Et puis, sur ce papier était écrit, c'était une demande en fait, on nous demandait, après la réunion du soir, d'aller encore visiter une famille à Monaco. Et quand le frère a vu l'adresse, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, on y va, il était déjà plus de 23 heures. On peut y aller à n'importe quelle heure, c'était marqué. C'était des gens qui étaient en détresse. Il me dit, le frère, c'est dans le quartier le plus riche de Monaco. Donc on a été, on a sonné à la porte. Et puis il y a un monsieur qui nous reçoit, un grand monsieur avec un fort accent italien. Puis il nous fait rentrer. Il dit, ah, vous êtes les pasteurs, merci d'être venus. Et tout d'un coup, ce monsieur se met à pleurer. Il nous présente sa femme, qui était une actrice anglaise. Il nous explique ses problèmes, ses soucis. Entre autres, il nous disait, on a absolument tout, on est riche, mais dans nos cœurs, on est sec. Et on a tellement de problèmes, tellement de luttes, tellement de difficultés. Ce monsieur avait même son propre hélicoptère. Il était chanteur à la Scala de Milan. On lui a simplement parlé de Jésus. Et on lui a rien demandé, on lui a pas dit de se mettre à genoux, rien. Au bout d'un moment, simplement, en parlant de Jésus, cet homme, c'est comme s'il avait compris. Il s'est jeté à terre, il s'est mis à pleurer, sa femme l'a suivi. Et on a prié avec lui. Ils ont été visités tous les deux. Leur vie a complètement été transformée. Un an plus tard, il est venu voir le pasteur et lui disait, « Depuis ce soir-là, ma vie a changé. Partout où je vais dans le monde, je cherche une église pour m'approcher du Seigneur. » Dieu transforme les cœurs de ceux qui veulent, de ceux qui cherchent et de ceux qui ont compris que les biens terrestres ne nous rendront jamais heureux. Seul Jésus-Christ dans nos vies nous rendront vraiment heureux. La nouvelle créature ne fonctionne donc plus comme l'ancienne créature. La nouvelle créature ne peut pas être négative. Donc à partir de maintenant, vous ne confessez plus rien de négatif de vos bouches. N'est-ce pas ? Plus de critiques, plus de jalousie, plus de rouspétance à cause de toutes sortes de choses. Parfois moi-même je me surprends à prononcer des paroles négatives. Mais dans mon cœur, le Seigneur me reprend. Et ensuite je dois demander pardon. Pardon au Seigneur ? Mais aussi pardon aux personnes avec qui j'ai tenu des paroles négatives. Si je parle toute la journée de mes bobos, de mes douleurs, de mes souffrances, ça ne les fera pas disparaître. Parler de nos bobos toute la journée, ça ne va pas changer notre condition. Ce qui fera disparaître mes maladies, c'est la foi et l'obéissance dans la parole de Dieu. C'est ma confiance dans la personne de Jésus-Christ. Le psaume 107. Verset 19 nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit et il les fit échapper de la fosse. » Amen. Parfois, des gens visitent des malades à l'hôpital et en voyant le malade, ils leur disent « Ah, tu sais, je connais un tel, il avait la même chose que toi. Et puis, il a eu tel et tel traitement, il a souffert beaucoup. Et puis, le pauvre... on l'a enterré il n'y a pas très longtemps. » Certes, ces personnes disent la vérité, mais c'est une vérité qui tue. Ce sont des paroles qui sont négatives et qui ne vont pas apporter de l'espérance aux malades. Si Jésus est dans mon cœur, dans ma vie, je vais croire à l'incroyable. Je ne vais pas regarder à la circonstance. Je ne vais pas regarder à la souffrance où je vais voir mon frère souffrir. Mais si je suis rempli de la personne de Jésus-Christ, jusqu'au bout, je vais croire que Jésus est capable de le toucher. Jusqu'au bout, je suis capable de croire que Jésus peut le guérir en un instant et en un clin d'œil. Mais je sais que nous sommes parfois limités. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est même pas un devoir, ça doit être naturel. Lorsque Jésus vit dans mon cœur, j'apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je proclame l'espérance. La bouche de la nouvelle créature est amenée à produire de l'espérance. Elle est amenée à produire la délivrance. Elle est amenée à produire la guérison, la vie. Si je suis une nouvelle créature, eh bien Satan, au bout d'un moment, doit plier bagage. Il doit partir. La Bible me dit que Satan, c'est le prince des voleurs. C'est un voleur. Il doit plier bagage. Avec tous ses outils de voleur, il doit partir. Il doit arrêter de voler les bénédictions qui sont réservées aux enfants du Seigneur. Il veut voler les bénédictions que Christ a préparées pour chacun de nous. Mais nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de lui résister. Et quand on sait que c'est un voleur, alors il faut agir en conséquence. Il ne faut pas le laisser voler. Il faut rester éveillé. On dit de nous que nous sommes des chrétiens du réveil. Alors si nous sommes éveillés, le diable ne pourra plus venir nous voler. Et s'il essaye de nous voler, il faut être plus malin que lui. Un jour, j'avais des problèmes au travail. J'étais responsable d'un secteur géographiquement assez grand, avec une soixantaine de personnes. Pour faire tourner le secteur, eh bien, on avait du matériel, des outils. Et chaque fois, on me reprenait, mes chefs, chaque mois, on me disait « Écoute, Christian, ça va pas, là, toi, tu fais exploser le budget du petit matériel. » Alors j'avais beau faire des efforts, le problème c'est que j'avais un voleur, ou plusieurs voleurs dans l'équipe, en tout cas il y en avait au moins un. Et puis j'ai commencé à prier pour ça, j'ai dit « Seigneur, il faut que tu m'aides, c'est pas possible, il faut que tu m'aides. » Et un jour, j'étais excédé par le fait que tout le temps il manquait plein d'outils dans le placard. Et le placard j'étais obligé de le laisser ouvert, parce que quand j'étais en réunion et qu'il fallait des outils, voilà, il fallait que tout le monde puisse travailler. Et un jour, je priais, et puis ça m'énervait cette histoire, ça ne me laissait pas tranquille. Alors un coup, j'ai fait mine de partir, et je suis monté sur la charpente métallique de l'atelier. Et puis j'ai fait de la surveillance pendant quelques temps. Oh, je n'ai pas dû surveiller longtemps, et j'ai vu le voleur. Mais ça me posait un problème après. Parce que cette personne, je la connaissais très bien, c'était quelqu'un qui était père de famille. Et alors, le dénoncer, ça me posait un problème de conscience. Parce qu'automatiquement, il se serait retrouvé à la porte. Alors que faire? Je disais, Seigneur, mais maintenant, oui, ok, c'est bien, t'es bien avancé, tu sais qui c'est le voleur, mais où est la solution? Et alors, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. J'ai convoqué une réunion, toute l'équipe, j'ai dit, voilà, j'ai un problème. Tous les mois, je dépasse le budget du petit matériel, et il y a un voleur parmi nous. Donc maintenant, pour que ça cesse, je vais donner la clé à un responsable. Donc si vous avez besoin d'un outil, vous allez voir cet homme. Et j'ai choisi le voleur. À partir de ce moment-là, c'est le voleur qui avait la clé. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus de problème. Parce que il devait me rendre des comptes. Et puis, mais quand j'ai donné la clé, tout le monde a rigolé. Mais ça a marché. Le voleur essaye de nous voler. Soyons plus rusés que lui. Et pour être plus rusés que lui, approchons-nous de notre Seigneur, approchons-nous de sa parole, lisons sa parole. Et nous allons ainsi, grandir et être de plus en plus forts. De sorte que ce ne sera plus du tout notre chair qui va commander, mais ce sera vraiment mon esprit qui va commander, qui va dominer sur ma chair. Ma bouche est donc très importante. Veillons à ce que nous confessons, veillons à ce que nous promettons, car Dieu et Satan en tiennent compte. Lorsque je parle, Dieu entend, mais l'ennemi de mon âme entend également. Il est difficile parfois d'harmoniser nos paroles et nos actions. Ça, c'est un proverbe canadien un jour que j'ai trouvé. Nous sommes parfois des grands parleurs et des petits faiseurs. Et Dieu préfère l'inverse, les petits parleurs et les grands faiseurs. Salomon va nous avertir dans le livre des Proverbes. Dans le chapitre 6, au verset 1er, il va nous dire « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » Beaucoup de personnes se lient elles-mêmes en faisant des promesses qu'elles ne peuvent pas tenir. Moi-même, j'ai dû corriger des choses dans ce domaine-là, dans ma vie, parce que je me suis aperçu que si je restais dans cet état, sans tenir ma parole, sans tenir mon engagement, la bénédiction de Dieu se retirait. Si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et que vous ne l'avez pas rendu, alors que vous avez promis qu'à telle et telle date, vous lui rendrez, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de Dieu parce que vous êtes vous-même lié par vos propres paroles. Satan vous a entendu et il vous tient parce que vous êtes devenu menteur à ce moment-là. Ou parce que je suis devenu menteur à ce moment-là. dans le lot de tout le monde. Je ne veux plus être lié par mes paroles. Vous devenez, dans ce cas-là, esclave de vos propres paroles et la bénédiction de Dieu est alors impossible. Ne dites jamais quelque chose pour plaire à quelqu'un ou alors pour vous débarrasser de quelqu'un. C'est la même chose. Si vous le faites, c'est un mensonge. Et Dieu ne peut pas bénir le mensonge. Nous devenons, dans ce cas-là, esclaves de nos paroles. Si vous avez fait une promesse à quelqu'un que vous n'avez pas tenue, alors la solution, c'est d'aller voir la personne, de lui demander pardon, de régler ce que vous avez à régler, pour que vous soyez dégagés et que la bénédiction de Dieu puisse revenir pleinement dans votre vie. De sorte que de nouveau le Saint-Esprit puisse agir et que vous soyez de nouveau pleinement heureux et que vous ressentiez de nouveau sa main à l'œuvre. Dans le même livre des Proverbes, Salomon va rajouter au Proverbe 18, verset 20, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans ces deux versets, on découvre que nous pouvons rassasier notre corps, soit de la vie, soit de la mort. C'est important. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dieu n'a jamais écrit des choses pour rien. Nous devons prendre au sérieux sa parole. Dans ces deux versets, on découvre que nous pouvons rassasier notre corps, soit de la vie, soit de la mort. Il s'agit non seulement de la mort physique, ou spirituel, mais aussi de l'échec dans notre vie, de la maladie, de la malédiction. Ce sont des conséquences que nous vivons dans nos vies. Nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne savons pas le pourquoi. Il nous est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la langue qui décrète la mort ou la vie dans le quotidien d'un homme. Parfois, on entend des gens qui disent, il n'y a rien qui va. Je ne connais personne, je souffre de solitude, je ne réussis dans rien, il n'y a rien qui marche. Ce sont des paroles qui sont couramment entendues, mais qui ne produisent, une fois de plus, aucun changement dans la vie de la personne. Salomon dira dans le Proverbe 15, au verset 4, « La parole réconfortante est comme un arbre de vie, et une parole cruelle est démoralisante. » Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons être des personnes encourageantes. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, être négatifs. Et nous n'avons aucune raison d'être négatifs. Aucune raison parce que Jésus remplit nos cœurs de sa joie. Il remplit nos cœurs de sa paix. Nous devons apprendre à maîtriser notre bouche. Nous devons apprendre à parler de Jésus. Apprendre à parler la parole de Dieu. Il est écrit. Et la parole de Dieu dans notre bouche va produire de l'effet sur nous-mêmes, mais aussi sur toutes les personnes qui vont l'entendre et la recevoir. Confesser Jésus-Christ, c'est confesser la vie. Seul Jésus a le pouvoir de nous rendre libres et heureux. Seul Jésus a le pouvoir de nous libérer de nos chaînes et de nos liens. Il n'y a rien de plus beau que d'être libre. Il n'y a rien de plus beau que de vivre complètement détaché des choses de ce monde. Parce que Jésus prend soin de nous. Ce sont ses promesses. Relisons ensemble Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, ou bien encore ne sera pas déçu, ne le regrettera jamais. Je ne regrette pas un instant le jour où j'ai vraiment compris qui est Jésus, le jour où je l'ai accepté dans mon cœur. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 4, verset 15, et je termine par ce verset, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » N'est-ce pas extraordinaire? Il n'y a rien de plus rassurant que de savoir que Dieu est avec nous et qu'il habite en nous. Tant la pression est grande autour de nous, autant la présence de Dieu se fait sentir. Et alors nous pouvons vivre dans la paix. Il peut se passer plein de choses autour de nous. Jésus est là. Son nom glorieux est dans notre cœur et dans notre bouche. Et lorsque nous le prononçons de notre bouche, il se passe toujours quelque chose. Eh bien, Jésus va agir et confirmer sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que nos bouches soient remplies de sa parole, que nos bouches soient remplies de sa personne. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Pain de vie, c'est toutes les nuits, du lundi au vendredi dans la nuit, autrement sur Phare FM à 1h15 et 4h15. Notre prochain rendez-vous, c'est la parole du jour, préparer l'avenir de ses enfants et le thème. Et tout de suite, on écoute You2, One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et Debbie Gass.
Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Préparer l'avenir de ses enfants. Bonjour à tous. Faut-il enfermer ses enfants pour leur éviter des ennuis? C'est peine perdue. On ne les met pas à l'abri des problèmes, on ne fait que repousser l'échéance. Couvre-feu, code vestimentaire, régulation d'Internet, surveillance des fréquentations, tout ça procède d'une bonne éducation. Mais les enfants ont avant tout besoin de principes, surtout quand ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. Et ces principes se trouvent dans la parole de Dieu. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Versets 6 à 9. Chaque génération considère la précédente comme dépassée. Et ce n'est pas si mal. Elle pense qu'il existe une meilleure façon de faire les choses. C'est là la base du progrès. C'est pourquoi il ne faut que quelques heures d'avion pour faire Paris-New York au lieu d'une semaine en paquebot. La parole de Dieu résiste à l'épreuve du temps. Alors, au lieu de les bâillonner sans cesse, il faut inviter les enfants à poser des questions, à remettre en cause les postulats, puis les aider à développer des convictions solides basées sur la Bible qui leur seront bien plus utiles dans leur vie. En tant que parents, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse leur faire.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour. Écoutez, c'est Phare FM.
You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend, but you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, cause you're my everything.
Bubble Everything sur Phare FM. On est encore ensemble pendant 10 minutes. Retrouvez Affaires de famille tout à l'heure. Et puis tout de suite, Tori Kelly avec la chanson High Water. Bienvenue sur la radio Autrement. Si vous venez de réveiller, bon réveil, excellente journée, très bon lundi.
Breaking broken hearted tears, forever kind of rain. Alone with all my fears, can't escape the pain. Tired of holding on, I'm running out of faith. Lord, I try, I try, try, I try. But I know something is coming in the morning. If I can make it through the night, whatever comes, head lower, high water. I know what's on the other side. I know what's on the other side. Called my phone, said he passed away. Hard to help a friend when you don't know what to say. All the questions and she still chose to pray. So I'll try, I'll try, try, I'll try. 'Cause I know something.
De famille.
L'amour comprend. Lorsqu'on réalise qu'il y a toujours une raison ou une motivation à un comportement, il est plus facile d'accepter et d'aimer nos enfants et notre conjoint. Beaucoup de comportements négatifs de la part d'adultes aussi bien que d'enfants proviennent du sentiment de ne pas se sentir assez aimé. Les racines de ce sentiment se trouvent soit dans les relations présentes, soit dans des besoins non satisfaits de l'enfance. Quelles qu'en soient les raisons, les actions négatives ou les cris insultants et blessants de certaines personnes sont souvent des appels au secours. Si nous en sommes conscients et que nous prenons le temps de comprendre les causes réelles de leur conduite, nous n'en serons pas affectés personnellement, nous ne crierons pas en retour et nous réussirons à renforcer nos relations d'amour. Après bien des années, j'ai compris que les gens réagissent toujours en fonction d'une blessure dans leur propre vie. Quand on comprend cette vérité, il est bien plus facile de pardonner. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ?
Retrouvez Affaires de famille en podcast sur pharefm.com.
When it feels like surgery and it burns like third degree and you wonder what is it worth when you starts breaking in and you feel that ache again and you wonder what's giving birth. If you could let the pain of the past go, of your soul, none of this is in your control. If you
you go. When your fear is currency and you feel that urgency, you won't.
Let You Go, Switchfoot sur Phare FM. C'est Bonjour chez vous qui vous attend dans quelques minutes après notre dernier titre. Et puis à 5h30, Innocent dans Cocorico. Pour ma part, je vous retrouve cette nuit à minuit. Je vous souhaite un excellent lundi. En avance, une très très belle semaine. Merci de rester avec Phare FM. Tout de suite, on écoute Claude Giraud, Donne.
Avant qu'on s'éteigne, que la nuit nous prenne, avant qu'on nous emprisonne, que l'énergie nous abandonne. Si rien ne presse, malgré les promesses, les icônes et les madones, on n'emporte rien, alors donne, donne tout autour de toi. Donne, donne, toujours le meilleur de toi, donne, et avec tout le mal qu'on se donne, donne et tu verras comment se pardonne, donne de l'amour. Ou qu'on blesse, on n'est que ce qu'on laisse, on empile, on collectionne, mais c'est surtout